Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
Parlons un peu de santé mentale. Vous le savez, depuis 2 ans, c'est dur sur le moral des gens. Et ça se manifeste, je dirais, de toutes sortes de façons. Il y a sûrement des histoires dans vos entourages, peut-être même que vous aussi, vous l'avez vécu, une impression d'épuisement. On va parler avec Dr Marie-Ève Coton, psychiatre. Salut, Dr Coton.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
Ben écoutez, je vais commencer avec une question qui est dans le ton. Comment ça va?
Ça va bien. Moi aussi, je suis fatiguée de la pandémie, fatiguée des mesures. En même temps, je trouve que c'est... Pour moi, ce qui a été plus facile peut-être que pour d'autres dans la pandémie, c'était le fait de faire des sacrifices et que ça ait un sens. Pour moi, protéger les personnes les plus fragiles dans la société, ça a toujours été quelque chose que j'ai trouvé très porteur de sens et très gratifiant. Fait que là-dessus, je me raccroche à ça. Je me dis, c'est difficile ce qu'on traverse. On a fait beaucoup de sacrifices. Ça nous a tous fait mal de voir moins de gens et tout ça, mais je me dis, on a fait ça pour sauver des gens, on a sauvé des vies comme ça, c'est pas rien. C'est à ça que je m'accroche.
Pourquoi ça nous a rentré dedans comme ça?
L'être humain n'aime pas le changement, donc devoir s'adapter, on a beaucoup dû s'adapter depuis 2 ans, donc ça nous a grugé beaucoup d'énergie. L'être humain n'aime pas l'incertitude. Beaucoup de gens réagissent à l'incertitude en inventant des certitudes. Bon, ça donne lieu à tout le mouvement là, qu'on connaît, conspirationniste et tout ça, mais vivre dans l'incertitude, tu sais, ça fait 2 ans qu'on vit en sachant, on ne peut pas faire des projets deux, trois, quatre mois en avance parce qu'on ne sait pas où sera rendu. Donc, c'est pas quelque chose à laquelle on est habitué. Fait que c'est comme une espèce d'anxiété qui est toujours là où on... C'est très difficile d'avoir les données avec lesquelles on peut composer. Fait que ça aussi, ça gruge au niveau de la santé mentale, au niveau de l'énergie psychologique. Fait qu'il y a toutes sortes. Puis aussi le risque, tu sais, le risque à gérer. Et pour beaucoup de gens, le risque, c'est pas tant la crainte de tomber malade, mais de pas vouloir justement propager ou pas vouloir infecter des personnes vulnérables. Fait que c'est mine de rien, puis c'est pas des stress spectaculaires, mais une pandémie, c'est une espèce de stress chronique, c'est la chronicité, c'est une espèce de marathon. C'est là où ça finit par être, tu sais, c'est pas comme une guerre spectaculaire où t'as un stress, tu peux mourir, tu t'en vas à une bataille. C'est comme une maladie chronique où à chaque jour, c'est un combat contre l'ennui, c'est un combat contre le découragement. C'est une autre sorte de guerre, si vous voulez. Mais c'est usant. C'est une forme de combat qui est très usante à la longue. Fait que tout ça, ça nous a taxé psychologiquement tout le monde.
Est-ce que ça se peut, Dr Coton, qu'il y a aussi l'aspect totalement nouveau? On n'avait jamais vécu ça. Comme individu, on n'est pas pire pour gérer certains stress. Là. Des fois, on se fait submerger, mais on sait comment surmonter une peine d'amour, une perte d'emploi, la maladie d'un proche, etc. Je ne dis pas que c'est facile, mais là, complètement nouveau. Est-ce que ça aurait été plus facile s'il y avait une pandémie, ce qu'on ne souhaite pas, aux 10 ans?
Oui, parce qu'on aurait des souvenirs, on aurait, tu sais, quand tu traverses quelque chose, puis tu as une représentation mentale que ça finit à un moment donné, tu sais, parce que les gens, par exemple, les gens qui ont traversé la grippe espagnole, il n'y en a plus beaucoup de vivants, évidemment, là, parce que ça fait pratiquement 100 ans, mais ces gens-là ont la représentation qu'à un moment donné, une pandémie, ça a une fin, tu sais, même si c'est beaucoup de sacrifices, puis c'est plate pendant quelques années, il y a une fin, ça aide, alors que la plupart des gens vivants qui ont vécu la COVID actuellement, on n'avait aucune représentation de c'était quoi cette épreuve-là, ça dure combien de temps, on réagit comment à ça, donc l'incertitude, c'est un des facteurs qui augmente beaucoup. La nouveauté puis l'incertitude, ça augmente beaucoup l'effet du stress. Ça. Fait qu'effectivement, on pouvait pas se rabattre sur aucun schéma connu de résolution de problèmes ou de dire on peut s'appuyer là-dessus pour se donner espoir. Personne ou presque, à part des gens très, très âgés, n'avait une expérience vivante d'une pandémie. Fait que ça ajoute beaucoup, beaucoup au stress. Puis le fait de pas avoir de contrôle, beaucoup non plus. Tu sais, quand t'as une situation puis tu t'as juste, t'as pas de contrôle énormément, tu sais, il y a pas personne qui avait le contrôle sur Omicron, là. Le timing d'Omicron a été très dur sur le moral des troupes, mais on n'avait pas le contrôle sur quand est-ce qu'il allait arriver ici. Ça allait, tu sais, affecter les célébrations de Noël et tout ça. Fait que c'est difficile de rencontrer des choses sur lesquelles t'as assez peu de contrôle, finalement.
Vous avez dit, il y a quelques instants, l'incertitude, ça nourrit le mouvement conspirationniste. Est-ce que vous avez été surpris de voir à quel point il y a des gens qui sont tombés dans ces mouvances-là, dans les sables mouvants du complotisme, de la désinformation?
Oui, j'ai trouvé ça surprenant et même angoissant. C'est pour ça que dans mes communications, j'essaie vraiment de comprendre le phénomène et d'essayer de le faire comprendre aux gens. Parce que pour les gens qui sont pas là-dedans, de voir l'ampleur, la quantité de gens, puis de voir des gens avec qui on avait beaucoup de proximité, tout ça, tomber là-dedans, c'est très anxiogène de dire, coudonc, tout d'un coup, tu sais, il arrive quelque chose de difficile. Oui, mais il y a comme 10% de la population ou un peu moins, tu sais, qui glisse dans une réalité parallèle. C'est très particulier de le vivre aussi du côté de ceux qui sont pas là-dedans. Alors, j'ai trouvé ça parce que j'avais pas vécu, moi non plus, d'événements collectifs. Tu sais, j'ai lu très tôt dans la pandémie, j'ai lu un livre qui s'intitulait « C'est quoi la réaction psychologique des gens à des pandémies? » Et ça a été étudié parce qu'il y en a eu quand même quelques-unes au fil des années. Et les théories du complot augmentent toujours dans les pandémies. Mais c'était quand même surprenant pour moi de voir l'ampleur que ça a pris, puis de voir des gens que j'aurais jamais imaginé qui pourraient verser dans ce genre de croyances-là, le faire quand même. Donc, c'était vraiment quelque chose de surprenant, oui.
Chaque fois que j'écris là-dessus ou que je commente ici à la radio sur des sujets qui touchent la désinformation, qui touchent le complotisme, il y a des gens qui m'écrivent, puis c'est toujours, ça déchire le cœur, ces gens qui racontent comment ils ont perdu des proches à ces mouvances-là, quasiment, ils savent plus comment entrer en communication avec eux. Est-ce que, comme psychiatre, Dr Coton, vous avez des conseils à leur donner?
Oui, c'est des conseils. C'est sûr qu'il ne faut pas que les gens s'attendent de dire qu'il y aurait une façon de les aborder qui empêcherait les problèmes. Tu sais, ça reste que c'est laborieux pour tout le monde. Tu sais. Mais en même temps, ce que je finis par un petit peu, à force de lire, à force aussi de mon expérience avec eux, je dirais, la confrontation, tu sais, frontale ne sert à rien. Même des fois, elle renforce même leurs croyances. C'est comme si pour eux, le fait qu'on essaie de les convaincre d'autre chose, ils rentrent ça dans le complot en disant, tu vois bien, t'es comme le gouvernement, ou t'es comme les médias, etc. Depuis un certain temps, moi, je vais plus avec les questions. C'est-à-dire que je fais une espèce de questionnement socratique sur « OK, explique-moi ta position » et je les pousse dans l'irrationalité de leur position, mais je donne jamais la mienne. Parce que, tu sais, à un moment donné, quand tu fais fi de toute la réalité, tu sais, de questionner, d'y aller juste par questionnement, mais ça, est-ce que comment tu peux être certain de ça? Est-ce que ça a été vérifié? Est-ce que ça, tu peux m'en donner des preuves? Juste en posant des questions, et en les mettant en contact avec la propre limite de ce qu'ils avancent, je trouve que ça amène un peu moins de confrontation. Puis, pour les gens qui veulent absolument aborder le sujet. Sinon, pour les gens qui ont des proches qui sont dans les théories du complot et qui veulent quand même, ce qu'on recommande, c'est essayer de maintenir les liens en essayant de parler autre chose. Parce que c'est très difficile de parler de ça. Essayer de garder des liens en disant, bon, on accepte qu'on n'est pas d'accord de ça, est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Parce que c'est des gens qui sont quand même, on le voit dans les facteurs de risque de tomber dans le complotisme, il y a l'isolement, il y a les pertes. Tu sais, c'est des gens qui n'ont pas des vies très faciles, hein, ou c'est des gens qui ont... Fait que c'est essayer de faire en sorte qu'on essaie de garder les liens. Et s'ils veulent absolument parler des thèmes, tu sais, de la crise sanitaire et des mesures et tout ça, y aller par des questionnements, parce que c'est, à un moment donné, quand eux sont plus capables de donner des réponses, mais que nous, on n'a pas proposé autre chose, c'est peut-être perçu un peu moins comme une attaque que de dire, ben là, demander, t'es au bout du raisonnement que ce mouvement-là peut te donner, là. C'est la négation de la réalité, à un moment donné, ça a ses limites, là. Donc, je suis moins... Moi-même, j'évolue dans mon interaction avec ces gens-là depuis 2 ans, parce que je me souviens, au début de la pandémie, là, il y a des complotistes qui m'envoyaient un message Messenger avec un article totalement de désinformation. Je prenais 2 heures pour leur expliquer comment l'article était erroné, comment quand il fait référence à ça, à cet autre article-là, il le cite pas bien. Je veux dire, on peut pas faire ça là, à chaque fois parce que... Donc maintenant, j'y vois avec plus des questions qui les poussent un petit peu dans les vacuums de leur théorie parce qu'à un moment donné, il y a des vides là, de pensée là-dedans parce que ça s'appuie pas sur la réalité.
Mais il y a...
Fait que je trouve que...
Les gens qui ont des proches dans ces mouvances-là vont vous répondre que c'est extrêmement difficile de parler d'autre chose parce que souvent, ces personnes-là veulent juste parler de ça.
Absolument. Et si c'est pas possible, ce que je dis souvent aux gens, c'est correct de mettre des limites aussi. Tu sais, les gens, surtout si non seulement ils veulent pas parler d'autre chose, mais quand vous en parlez, le ton monte systématiquement, ou ils deviennent systématiquement hostiles, à un moment donné, il faut mettre des limites à ça. On les aide pas en les laissant, tu sais, briser leur relation comme ça. Fait que c'est tout à fait correct à ce stade-ci de dire, écoute, si tu ne veux pas parler d'autre chose ou si tu peux pas garder un ton normal ou discuter calmement de ce sujet-là, ben on va interrompre nos communications pendant un certain temps et quand tu pourras en parler calmement, on se reparlera. Faut pas non plus les traiter comme des enfants, là, ça s'en est pas. Donc il faut mettre la limite quand il y a des choses, que ce soit de l'hostilité, de l'agressivité verbale ou tout ça. S'il n'y a pas aucune communication possible, soit sur d'autres sujets, soit en discutant de ça, mais calmement, c'est correct de dire, mais non, ça passe pas, j'accepte pas ça. T'sais, on n'est pas... les gens n'ont pas à devenir des punching bags là, pour... que ce soit des proches, que ce soit des journalistes ou whatever, on n'a pas à tolérer des choses pas tolérables. Ça fait partie du message de dire... On est prêt à débattre comme citoyen des idées, mais pas à ce ton-là. C'est pas possible. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens complotistes qui vont accepter d'avoir des interactions sur autre chose, puis il y en a d'autres plus radicalisés encore, avec qui c'est plus possible du tout. Puis à ce moment-là, c'est correct, je pense, d'interrompre, de se protéger soi, notre santé mentale aussi, là, tu sais, parce qu'être tout le temps en communication avec quelqu'un qui est dans une réalité parallèle et qui n'est pas capable de parler d'autre chose, qui n'est pas capable de parler de ça calmement, ben, à un moment donné, c'est notre santé mentale à nous qui va en souffrir. Tu sais. Fait que c'est correct aussi de mettre une limite ou de mettre une distance.
Je pense qu'on avance tous à tâtons là-dedans et qu'on apprend un petit peu sur le proverbe Yalta. Merci beaucoup, Dr. Coton. Toujours un plaisir.
Ça m'a fait plaisir. Au revoir.
À la prochaine. Salut. Dr. Marie-Ève Coton, psychiatre.
Vous écoutez les meilleurs moments du Québec maintenant.
On va parler de radicalisation maintenant avec Marie-Ève Carignan, professeure du département de communication de l'Université de Sherbrooke et directrice du pôle média de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Marie-Ève Carignan, salut!
Salut!
C'est un beau laboratoire que celui qui est notre époque hein, pour les chercheurs en radicalisation, je pense.
Malheureusement, on a un très grand laboratoire. On est très occupé depuis quelques mois, disons.
Bien, la manifestation d'Ottawa, est-ce que ça a été instructif pour vous?
Mais c'est certain que pour nous, ça confirme certaines choses, certaines tendances qu'on voyait notamment sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois. Donc, on voyait vraiment cette tendance-là à avoir des leaders qui sont issus de mouvements, notamment d'extrême droite, qui vraiment instrumentalisaient le débat autour de la pandémie, l'espèce de fatigue pandémique, questionnement sur la légitimité du gouvernement pour eux faire aussi entendre un agenda politique derrière ça. Et là, on l'a vu quand on regarde les organisateurs du Convoi pour la liberté, qui est devenu vraiment un mouvement d'occupation à Ottawa, ben on voit cette manifestation-là de différentes mouvances là, d'extrême droite qui essayent vraiment de faire un peu dévier le débat pour faire tomber le gouvernement puis ramener cette espèce de méfiance là, envers le système démocratique.
Sans dire que ça n'existe pas au Québec, ce sont des mouvances, ce sont des acteurs très, très canadiens-anglais, même, je vais dire, de l'Ouest canadien. Pour les gens là, qui ne seraient pas au courant du pedigree de ces organisateurs-là, de ces organisations, Marie-Ève Carignan, faites le portrait de ces gens-là d'extrême droite de l'Ouest canadien.
Oui, mais c'est certain que dans les leaders québécois qu'on observe, hein, c'est important de le dire, vous avez raison, il y en a beaucoup qui sont issus de mouvances ou de groupes d'extrême droite québécois également qui sont devenus des leaders de la pandémie chez nous, là, plus dans la francophonie. Dans les organisateurs du mouvement Ottawa, bon, on voit notamment, là, on a appris aujourd'hui que Tamara Litch allait être gardée derrière les barreaux depuis longtemps. Ben, elle est issue du Maverick Party, donc vraiment elle adhérait à des idéologies qui sont quand même liées là, à la droite très radicale, voire à l'extrême droite. À côté d'elle, on voyait aussi le, disons, journaliste d'investigation autoproclamé, Pat King, qui a notamment là, souvent proféré des théories qui sont liées à celles du grand remplacement. Donc, l'idée, par exemple, que la population blanche pourrait être éventuellement remplacée par des populations immigrantes, et donc des idées qui sont très là, anti-immigration, notamment. Qui, lui, d'ailleurs, Pat King a partagé justement différents documents là, à l'effet que les gens devraient signer ça et envoyer ça au gouvernement pour faire tomber la démocratie, tomber le premier ministre notamment. On a vu aussi des gens dans les organisateurs qui sont liés au mouvement Canada United, donc vraiment un mouvement qui lui aussi, la même chose, là, appelait à faire remplacer les députés par des gens non élus via la gouverneure générale et qui a déjà partagé notamment là, des idéologies liées à la mouvance QAnon.
Est-ce que l'extrême droite canadienne est beaucoup influencée par l'extrême droite américaine?
Mais c'est certain qu'il y a des vases communicants. On le voit beaucoup quand on analysait là, depuis deux ans ce qui se passe sur les réseaux sociaux numériques en lien avec la pandémie. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux écosystèmes au Canada. Il y a comme l'écosystème du Québec qui est très axé sur la francophonie. Donc, on a nos propres leaders qui ont développé leur propre discours, qui ont parfois repris là, des thèses américaines comme celle de QAnon, mais qui l'ont mis, disons, à la sauce francophone et qui sont devenus vraiment très populaires dans l'ensemble de la francophonie. Donc, nos leaders, disons, québécois ont une influence en France, en Belgique, et se promènent comme ça. Mais à côté, ben, il y a l'écosystème canadien qui, lui, a ses propres leaders, mais par la langue, forcément, il y a vraiment un vase d'avantages communicants là, entre les États-Unis puis le Canada.
Mais quand il y a eu cette occupation-là de trois semaines, Marie-Ève Carignan, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise dans le discours, dans le profil des gens qui étaient là, par exemple?
Mais des choses qui nous ont surpris, c'est certain que ce qu'on voit vraiment, c'est que notamment il y a beaucoup de gens qui, eux, adhéraient à ce mouvement-là vraiment de bonne foi, puis qui avaient parfois des questions très légitimes sur la pertinence de certaines mesures sanitaires qu'ils pouvaient trouver très invasives, pas nécessairement toujours bien communiquées dans le choix des stratégies gouvernementales. Donc il y avait un fond qui demande un débat public et qui se justifie, mais ces gens-là n'ont pas toujours conscience de avec qui ils s'associent, avec qui ils manifestent un peu main dans la main, disons, et donc ça fait parfois des trucs bizarres qu'on peut voir là quand on observe sur des pancartes, des drapeaux qui sont parfois des idéologies à la base qui semblent très contradictoires, mais qui se sont rejoints justement là, dans cette espèce de méfiance envers les institutions. Bon, ce qu'on voit, c'est une méfiance envers le gouvernement, oui, mais envers les institutions médiatiques, envers les chercheurs, et donc toute cette méfiance là, il y a certains groupes qui en profitent pour finalement mobiliser leurs idées. Donc, nous, on n'était pas surpris de voir ça avec tout ce qu'on observe depuis deux ans, mais disons que ça matérialisait les choses. Et malheureusement, moi qui, par exemple, travaille sur les enjeux médiatiques, ben ça confirme encore cette espèce de méfiance envers les médias, notamment, puis de penser que les médias sont finalement là, payés par le politique pour dire ce qu'on veut entendre. Puis donc, ça se manifeste par des actes qu'on a vus là, qui sont parfois déplorables envers différents professionnels de l'information.
OK. Professeur Carignan, vous êtes professeur au département de communication, mais vous êtes aussi spécialiste en radicalisation. La radicalisation, c'est apparu sur dans notre vocabulaire, ça, quand il y avait des jeunes musulmans qui quittaient le confort de l'Europe, du Canada, du Québec, pour aller combattre avec l'État islamique, par exemple. Comment est-ce qu'on sait qu'une personne est radicalisée de nos jours dans ces mouvances antisanitaires?
Vous avez raison. D'abord, le terme radicalisation est apparu dans cette mouvance-là. Puis, une des études qu'on a fait avec mon équipe, c'était d'analyser pendant un an la couverture des médias sur la radicalisation. Et ce qu'on voyait, c'est que jamais pendant l'année, sauf un texte qui est écrit par un professeur dans un journal, dans un quotidien, jamais on a défini ce qu'était la radicalisation. Ce qui fait en sorte que beaucoup de gens comprennent pas ce que c'est quand on en parle aujourd'hui parce qu'on l'a jamais défini. Et puis ça aussi, j'ai des collègues là, de l'Université de Montréal dans un FRQ qui ont confirmé ça, ils ont fait un sondage, puis les gens comprennent pas c'est quoi parce que justement, c'est un mot un peu galvaudé. Mais ce qu'on voit, c'est des gens qui vont avoir tendance à s'enfermer dans leurs croyances, vraiment à davantage se fâcher quand on n'adhère pas à ces croyances-là. Et on le voit très, très bien, entre autres, dans un sondage qu'on a fait en juin dernier sur notamment l'adhésion à une vision conspirationniste des choses. Mais on voit que ceux qui adhèrent le plus fortement à cette vision conspirationniste des choses-là se sont radicalisés. C'est des gens qui ont tendance à penser que, par exemple, le recours à la violence peut être légitime pour se faire entendre puis faire entendre leurs idées. Le sondage qu'on a fait là, nous le démontre vraiment clairement, ce lien-là entre l'adhésion à une vision conspirationniste des choses et la sympathie à l'égard de la violence.
OK, donc, je vais prendre l'exemple là, du gars qui a bousculé en direct le journaliste Raymond Filion. Il a fait il y a un témoignage sur Facebook. Il y a des gens qui ont qualifié ça d'excuse. Moi, j'ai pas vu d'excuse là-dedans. Mais dans le fond, ce qu'il dit, c'est que les journalistes de TVA l'ont cherché. C'est une forme de radicalisation de dire ça, là. C'est une forme de c'est une façon de légitimer la violence.
Mais on voit qu'il est très radicalisé dans ses croyances parce que forcément, il croit qu'il y a un complot puis que les médias en font partie. Ça semble clair, en tout cas, dans ce que j'ai lu de cette publication-là. Notamment, on voit qu'il adhère à de la désinformation hein, parce qu'il partage le fait qu'il y aurait eu un mort piétiné par un cheval pendant la manifestation. Mmh. Puis ça, c'est vraiment une fausse nouvelle que Fox News a partagée. Mais il partage aussi cette idée-là que, justement, le journaliste, comme vous dites, voulait se faire ramasser puis c'était peut-être une stratégie pour qu'on ait pitié des médias et qu'ils deviennent finalement les victimes et qu'ils puissent davantage dénoncer, disons, la violence de ce mouvement-là, donc que ce serait une stratégie orchestrée. Et c'est vraiment le problème. C'est drôle parce que je parlais avec des journalistes, justement, cette semaine pour un colloque qu'on organise, puis c'est ce qu'ils disaient qui était un peu odieux de, quand on est un professionnel de l'information, dénoncer la violence envers les journalistes. Mais comme ces journalistes-là sont partie prenante, ben, ils se font accuser de ne pas être neutres, puis finalement d'essayer d'attirer la pitié. Il y a notamment la journaliste Marie-Ève Martel là, qui a fait une chronique en dénonçant cette montée de la violence envers les journalistes, là, qui a reçu plein de menaces après sa chronique. Il y a environ une semaine, elle a dû porter plainte à deux reprises à la police, si je ne me trompe pas. Donc, la même chose, on voit que les camions de TVA sont maintenant banalisés dans les événements. Donc, c'est une montée vraiment importante là, de la violence envers les professionnels de l'information qui a été dénoncée cette semaine, notamment par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et la FNC, notamment.
Mais cette violence-là, c'est juste un symptôme d'un état d'esprit dans ces mouvances-là. Ces gens-là, quand la pandémie va être terminée, est-ce qu'il y a des chances qu'il y ait une proportion, tu sais, appréciable de ce monde-là qui se disent « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là ces dernières années? »
Mais c'est certain que cette violence-là, c'est vraiment une manifestation d'une méfiance envers tout le système, dont les médias, puis penser que les médias font partie d'un complot. Et on le voit vraiment, là, on voit toutes sortes de pancartes assez insultantes envers les médias depuis quelques temps, qu'on a donné d'autres surnoms que je nommerai pas. Mais donc, il y a cette méfiance-là. Mmh. Et c'est certain qu'après la pandémie, bien, ce qui va arriver, il y a peut-être des gens qui sont un peu radicalisés et que là, bon, le retour à la normale va les faire s'éloigner de, disons, ce combat-là. D'autres, parfois aussi, la fatigue, la confrontation avec l'entourage, qu'on a vu, entre autres, dans différentes personnes qui quittent des mouvements complotistes, c'est aussi de l'éloignement avec des proches. Et puis, il y en a d'autres qui vont peut-être continuer à se radicaliser ou adopter un discours qui va continuer sur d'autres problèmes sociaux, parce que ça peut être la préoccupation. En ce moment, il y a beaucoup de chercheurs qui, notamment, pensent que ce discours-là va peut-être évoluer vers des contestations sur les prochaines mesures qu'on va prendre pour contrôler, par exemple, les changements climatiques, protéger l'environnement ou peut-être une prochaine crise sanitaire, parce qu'il risque malheureusement d'en avoir d'autres.
Quand je vois aller certaines personnes là, qui sont dans des univers parallèles, j'ai un peu eu l'impression d'entendre l'écho de gens qui ont été pognés dans des sectes.
Excusez-moi, je suis désolée, j'ai un petit chaton qui pleure en arrière.
Allez-y, Marie-Ève, il n'y a pas de problème.
Allez-y, je vous écoute, je vais aller m'en occuper ensuite, je suis désolée.
OK, parfait. Mais si vous avez besoin d'y aller, savez-vous quoi? Il est 18h16, là, je vous laisse, je vous libère. Allez vous occuper de vos enfants. Merci de nous avoir parlé. On va vous recevoir une prochaine fois. Aucun problème. Vous avez été très généreuse. Merci beaucoup.
Okay. Merci.
C'était Marie-Ève Carignan, professeure au département de communication de l'Université de Sherbrooke.
Vous écoutez Patrick Lagacé en accéléré.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Vous écoutez les meilleurs moments du Québec maintenant.
L'empreinte carbone de 63 milliardaires français, disons avec leur patrimoine financier, là, pollue autant que la moitié que le reste de toute la population de la France. On en parle avec Patrick Bonin, responsable de la campagne climat-énergie pour Greenpeace Canada. Patrick Bonin, salut!
Salut, ça va bien?
Oui, merci, vous aussi, j'espère. Dites-moi, comment 63 personnes peuvent émettre autant de GES que 33 millions de personnes?
Bien, on avait déjà entendu parler d'études qui comparaient les styles de vie. Évidemment, les milliardaires, les multimillionnaires ont des styles de vie qui émettent beaucoup plus de gaz à effet de serre. Pensez à des yachts privés, à des jets privés, à des voyages dans l'espace même, à la surconsommation des grandes maisons, véhicules de luxe. Donc ça, on connaissait déjà une empreinte beaucoup plus grande. Cette fois-ci, ce que nos collègues en France ont analysé, c'est l'empreinte du patrimoine. Et par patrimoine financier, qu'est-ce qu'on entend? C'est l'entreprise principale dans laquelle ces milliardaires-là ont des actions, ont des investissements, et on a pris seulement une entreprise, comme par exemple grande entreprise de produits laitiers, de transport de marchandises, de distribution en général, pour se rendre compte que bien, l'empreinte, elle est beaucoup plus grande qu'on pensait. Et juste pour prendre l'exemple, le plus grand financier milliardaire avec la plus grosse empreinte, il a l'équivalent de l'empreinte de 3 millions de ménages français en termes d'impact. Ça, c'est une différence, par exemple, entre une sauterelle et un hippopotame en différence d'impact. Là.
Mais on parle quand même, il y a le principe là, des intérêts financiers, là, le patrimoine financier. Donc, c'est pas seulement leur joujou, leur yacht, leur jet privé, mais c'est aussi les participations que ces gens-là ont dans des compagnies. On a pris ça en compte. Est-ce qu'on peut dire que c'est leur train de vie personnel ou c'est, disons, toute leur participation qui contribue au réchauffement?
Oui, en fait, c'est beaucoup plus que leur train de vie personnel. Encore une fois, c'est pas le style de vie, le yacht, le jet, etc. C'est vraiment les investissements, le patrimoine financier. Et encore une fois, on s'est limité à une seule entreprise, soit souvent, évidemment, leur entreprise familiale, leur holding familial. Et pourquoi c'est intéressant? Eh bien, ça l'amène complètement à une autre dimension où on se rend compte que, un instant, on a ces 63 milliardaires-là, et il y en a plus que ça, là, donc on n'avait pas les chiffres, ça c'est difficile à voir en passant, mais ils sont responsables de plus d'émissions que la moitié des Français en moyenne. Donc, et pensez que c'est l'équivalent, évidemment, ici au Canada, dans un contexte où, souvenez-vous, depuis le début de la COVID, les milliardaires ont augmenté de près de 60 % leur patrimoine en général, donc leur richesse, alors que les autres font face, par exemple, à des enjeux majeurs d'augmentation du coût de la vie, de l'inflation. Et on a tous une responsabilité de réduire les émissions, mais il y en a qui ont beaucoup plus de moyens de le faire. Ils contrôlent des grandes entreprises, ils ont des milliards, donc ils peuvent changer littéralement la direction où on s'en va d'un point de vue économique et sociétal. Et c'est là que ça pose justement la responsabilité individuelle et les limites et de voir qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier.
Et en fait, ce que le rapport illustre, corrigez-moi si je me trompe, c'est que la prospérité, c'est une cause majeure de changement climatique. Parce que plus des individus sont prospères, plus ils consomment, plus des pays sont prospères, plus ils ont de gens qui consomment, ben plus on pollue la planète, non?
Bien, tout à fait. Et le levier financier de cet argent-là, il faut maintenant le contrôler. Donc, c'est l'idée de voir comment on peut faire en sorte de forcer ces investissements-là et les diriger vers des futurs, vers des projets verts, vers des projets plus faibles en carbone. Et inévitablement, ça passe par l'idée de mettre un impôt sur la fortune en général, mais aussi sur le patrimoine, d'envisager, par exemple, d'avoir des objectifs de réduction de gaz à effet de serre au niveau des portefeuilles financiers. Et un exemple simple, il a été calculé au niveau mondial que si on mettait une taxe de 10 % sur les avoirs des multimillionnaires qu'ils ont dans les compagnies pétrolières et gazières, donc juste une taxe de 10 % ça produirait 100 milliards de dollars qui pourraient être utilisés pour justement réinvestir dans l'économie de l'avenir, dans des projets porteurs au niveau de la société. Donc, il faut mettre des limites à ces investissements-là.
Comment on résout, Patrick Bonin, le problème suivant? Tu sais, il y a personne qui veut être pauvre. Quand on est prospère, ben, on veut être encore plus prospère. Tu sais, c'est vrai pour les individus. Bien souvent, c'est vrai pour les pays aussi. Il n'y a pas un pays qui veut rester dans la pauvreté. Mais pour se sortir de la pauvreté présentement, ça passe par la consommation. On consomme plus, on pollue plus. Est-ce possible de consommer plus puis de moins polluer?
Bien, oui, si on consomme différemment, si on consomme... Mais en général, je vous dirais il faut consommer moins, ça c'est certain. Après ça, il faut voir la responsabilité individuelle, elle a des limites, évidemment. On peut, par exemple, taxer les biens de luxe. On parlait des yachts, des avions. On parle également, évidemment, des grandes maisons, les châteaux, même dans certains cas. On parle aussi de gens qui vont dans l'espace de nos jours pour s'amuser à faire des trips de week-end, là. Donc, il y a des activités qui peuvent facilement être taxées et qui doivent être taxées, je dirais. Et aussi, ben, mettre au niveau de ce qu'on appelle l'éco-fiscalité. Donc, de faire en sorte que lorsqu'on fait une activité polluante, lorsque vous choisissez, par exemple, un VUS neuf qui est beaucoup plus polluant qu'un véhicule électrique, comment ça se fait qu'au Québec, on n'ait pas de surtaxe sur ce genre de véhicule neuf-là qui vaut 50 000 $ et si les gens ont les moyens de choisir, eh bien, il faut diriger leur choix vers justement des choix qui détruisent moins l'environnement et qui protègent les générations futures.
À cette fin de pandémie, là, on prend conscience, Patrick Bonin, là, que la désinformation, c'est un vecteur assez puissant pour, disons, pousser les individus à changer leur comportement, des fois à descendre dans la rue. Pensez-vous que ça va être un des défis de la lutte au changement climatique, faire face à de la désinformation dans l'avenir?
Ben, je pense que la désinformation est moins présente, souvenez-vous, à l'époque des climato-sceptiques. Donc, les gens comprennent, on fait face au changement climatique, les feux de forêt, les canicules, etc. Donc, il y a moins de scepticisme à ce niveau-là. Par contre, en termes de niveau d'ambition, ou plutôt de rapidité du changement qu'on doit faire, de changement drastique dans la société, je pense que le problème, il risque d'être davantage là. On a vu les gilets jaunes en France. Il y a eu une augmentation, entre autres, du prix de l'essence en lien avec la lutte contre les changements climatiques. Ça s'est fait rapidement. Ça l'a frappé les plus démunis. Les gens ont dit, on n'en veut pas. C'est complexe, les gilets jaunes, donc c'était un catalyseur. Mais on sait qu'il va falloir faire ce genre de virage-là. Et ça prend des gouvernements qui montrent l'exemple, qui éduquent la population, qui donnent de la sensibilisation en termes de, regardez, les changements climatiques, là, vous faites le parallèle avec la COVID, si les gouvernements n'avaient pas mis leur pied à terre, expliqué de l'ampleur des mesures qu'on devait prendre, le virage et les contraintes éventuelles, il risque d'arriver la même chose au niveau des changements climatiques. Donc, il faut préparer, expliquer à la population, donner les outils, mettre également des limites. On parle d'éco-fiscalité, mettre des incitatifs, parce que si vous dites, ah ben oui, moi je vais délaisser mon véhicule pour prendre le transport collectif, mais il n'y en a pas, ben vous ne pouvez pas le faire. Donc, les gouvernements ont un rôle majeur de préparer. Jusqu'à maintenant, ben, l'urgence climatique, c'est théorique au niveau de M. Legault, de M. Trudeau également. Il y a de l'incohérence majeure, les troisièmes liens, les pipelines, name it, là. Donc, il y a beaucoup à faire et on a besoin absolument de gouvernements forts qui montrent l'exemple et qui font en sorte qu'on est capable de prendre ce virage-là.
Merci, Patrick Bonin.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
Organismes communautaires, que ce soit en santé mentale, itinérance, prévention de la violence, lutte contre la pauvreté, aide à l'enfance aussi, ben le milieu communautaire joue un rôle essentiel pour le tissu social et d'appui aussi aux services gouvernementaux. La pandémie a fait exploser les demandes d'aide auprès des organismes, mais le financement qui a jamais été, là, disons, optimal sous tous les partis, ben c'est encore pire, semble-t-il, maintenant. Et pour attirer l'attention du gouvernement et exiger plus de ressources, il y a 1400 organismes communautaires qui sont en grève depuis hier à travers le Québec jusqu'à jeudi. Pourquoi sont-ils indispensables? Pourquoi ont-ils besoin d'argent? On va faire le tour d'horizon avec trois intervenants. On commence avec Caroline Toupin, qui est coordonnatrice du Réseau québécois de l'action communautaire autonome RQACA. Madame Toupin, bonjour.
Bonjour.
D'abord, pourquoi ce mouvement de pression de grande ampleur? J'avais jamais entendu parler de ça, moi, des organismes communautaires qui font la grève.
Ben, vous avez raison, hein. Pour qu'un organisme décide de fermer, c'est parce que ça va vraiment mal. Donc, nous, on représente 4000 organismes, puis on est en grève là, toute la semaine. C'est une grève qu'on qualifie d'historique. Là. C'est la première fois qu'on tient 4 journées de suite là, de grève. Puis ce qu'on demande au gouvernement, c'est de répondre à leurs besoins qui sont évalués à 460 millions de dollars à la mission. Donc, on parle d'argent récurrent, on parle d'argent indexé annuellement là pour qu'on trouve des solutions durables, là, structurante.
Puis il manque, c'est ça, hein, il manque 460 millions selon les estimations du communautaire.
Exactement. Ça représente en moyenne là, 132 000 $ de plus par année par organisme. À quoi ça va servir, cet argent-là? Ben, ça va servir à améliorer les conditions de travail. On est plus capable de garder nos équipes. Là. Ça va servir à embaucher des nouvelles personnes. On manque de monde. Donc, c'est vraiment à ça que ça va servir, là, cet argent-là.
Pourquoi, Mme Toupin, vous n'êtes pas capable de garder votre monde, comme vous dites?
Ben, c'est les conditions de travail. Nos conditions de travail sont en dessous de la moyenne québécoise. Donc, c'est vraiment une grosse, grosse partie du problème. Deuxième partie du problème, c'est que, bon, il y a quand même un problème de pénurie de main-d'œuvre. Donc, les gens quittent pour des meilleurs emplois. Et pendant ce temps-là, ceux qui restent, ben, ils se retrouvent en surcharge de travail. Donc, on parle de problèmes de santé mentale, on parle de problèmes de fatigue, d'épuisement, etc. Donc, on est en train de brûler nos équipes. Alors que les demandes, les besoins de la population augmentent actuellement là, avec la pandémie.
Les gens qui travaillent dans le communautaire gagnent pas des masses. Là. Est-ce qu'on a une idée de la moyenne salariale?
Oui, on parle d'à peu près là, presque 20 $ de l'heure là, en moyenne là, au Québec pour les emplois à temps plein. Puis on parle de 16 $ de l'heure pour les emplois à temps partiel. Donc, c'est quand même pas... Puis on parle... Dans le communautaire aussi, il y a beaucoup de travail là, à 28 heures par semaine.
Oui.
Donc, c'est des salaires à 30 000, là, bien souvent.
Très bien, parfait. Merci, Mme Toupin. Je me tourne maintenant vers Sébastien Lanouette, directeur général de Ressources Jeunesse Saint-Laurent. C'est une maison d'hébergement pour jeunes en situation d'itinérance. Monsieur Lanouette, salut.
Bonjour.
OK, expliquez-nous ce que vous faites concrètement là, dans la communauté pour les jeunes en situation d'itinérance chez vous.
Ben oui, ben nous, on a une maison d'hébergement pour jeunes en difficulté de 16 à 22 ans. Donc, c'est des jeunes qui sont soit qui sortent de la DPJ ou qui sont dans la rue, puis viennent chez nous pour des séjours de 0 à 6 mois. Ils habitent là, c'est les repas, c'est le toit, c'est la maison, c'est le sentiment familial, c'est retourner aux études ou trouver un travail, sortir de la rue concrètement quand ils viennent chez nous. Puis, on a aussi un bloc d'appartements supervisés pour leur apprendre la vie en appartement par après leur séjour, un premier séjour, par exemple, dans une maison d'hébergement.
Donc, quand ils sont désorganisés dans la rue, vous les prenez, puis vous, dans le fond, vous les aidez à revenir à une vie plus organisée.
Exactement. Ou quand ils sont laissés, des fois c'est leurs parents qui soient les soit il y a des abandons, soit qu'ils sont plus capables de s'en occuper à cause des problématiques qu'ils peuvent vivre à la maison, ou la DPJ qui a 18 ans arrête les suivis. Et ben ces jeunes-là ont besoin quand même. C'est pas à cause que tu as été en centre d'accueil avant qu'à 18 ans tout va bien dans ta vie. Là. Au contraire, c'est que souvent ils ont besoin d'une place. Puis nous on est là. Moi je fais partie du réseau des auberges du cœur aussi. On fait partie donc de ce réseau-là. Puis on est là pour les aider à s'organiser, à se trouver une vie, à se créer un réseau social aussi qui vont pouvoir sur lequel ils vont pouvoir compter parce que souvent ils n'en ont pas. Puis sur lequel ils vont pouvoir après ça tabler pour le futur.
OK. Et présent, vous avez combien de lits dans cette ressource-là?
Moi, là, j'ai 11 lits. Depuis Noël, j'en ai fermé à peu près 7 dû au manque de personnel, dû aux conditions dans lesquelles on a été. On en rouvre un petit peu à toutes les semaines, c'est-à-dire qu'on reprend des nouvelles admissions. Ça correspond donc que là, en ce moment, on doit avoir 6 jeunes chez nous. Puis en prendre trop vite, ma peur, c'est qu'on doit fermer parce que je manque de personnel. Puis que je dois me retrouver à les renvoyer soit dans la rue ou dans d'autres ressources s'ils ont de la place dans d'autres ressources, ce qui n'est pas bien le cas en ce moment.
Feriez quoi avec plus de financement?
Un, ça serait plus payer mon personnel de façon plus élevée. On manque, on est en déficit par rapport au niveau salarial, par rapport au réseau, par exemple, grandement. Ce qui fait que facilement nos employés qui viennent se forment, développent des connaissances, des apprentissages, mais ils peuvent pas vivre avec ces salaires-là. Fait qu'ils vont ailleurs. Puis on peut pas les blâmer. Ils vont chercher des conditions qui leur permettent de vivre. Ensuite, ça serait d'augmenter le nombre de suivis qu'on peut avoir, le nombre de personnel. On manque de personnel. Moi, la plupart de mes corps sont pas doublés. Donc, j'ai à peu près 20-25% de nos corps qui sont doublés, c'est-à-dire qu'on a 2 personnes en présence. Le reste du temps, c'est 1 personne. Donc, dès que quelqu'un est malade, dès que quelqu'un, par exemple, dans les derniers temps, a la COVID et doit rester à la maison, il faut trouver à le remplacer, ce qui c'est très, très, très dur. Des fois, ça veut dire que l'équipe personnelle doit faire des corps doublés, doit aller la nuit travailler, doit changer les horaires, doit quitter, eux, leur famille pour venir s'occuper à la maison parce qu'on n'a personne en doublage de corps. Puis ça, c'est vraiment une grosse problématique. Surtout, exacerbé, on la connaissait avant, mais c'est exacerbé avec la COVID. Là, avec les gens, ben là, je touche, je peux pas rentrer, il faut que je me fasse tester. Puis là, les accès aux tests sont pas disponibles ou faciles. Surtout, il y a quelques semaines, fait qu'on se ramassait avec des situations très précaires où si on avait pu avoir des corps doublés, on ne serait pas dans cette situation.
Monsieur Lanouette, merci puis bonne chance. C'est important ce que vous faites avec la ressource jeunesse Saint-Laurent.
Merci beaucoup.
À la prochaine. Lynn Saint-Germain de l'organisme CRESA. C'est un centre d'éducation populaire et d'alphabétisation à Montréal. Madame Saint-Germain, bonjour.
Bonjour.
Je l'ai bien prononcé, merci. CRESA?
Non, c'est CRECA.
CRECA, parfait.
C'est CRECA.
OK.
Oui. Donc, je veux pas vous interrompre, mais je tiens à vous remercier du temps d'antenne qui est si précieux pour nous, de nous sortir de l'ombre. Donc, merci. Donc, je suis tout à vous. Qu'est-ce que vous voulez savoir?
Grand plaisir. Expliquez aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que vous faites au CRECA, qui est un centre d'éducation populaire et d'alphabétisation?
Oui, c'est ça. Notre spécificité, c'est vraiment d'alphabétiser des gens, des adultes qui sont très peu scolarisés ou pas du tout scolarisés, parce que ça existe. Donc, nous, c'est de l'alphabétisation populaire. On est gratuit, inclusif, inscription en tout temps, pas de niveau, pas d'examen, et on s'adapte aux besoins constants de l'apprenant.
Une fois que les gens passent chez vous, Mme Saint-Germain, ils sont là combien de temps? Et après ça, quand ils sortent du CRECA, est-ce qu'ils peuvent lire et écrire?
Ils vont arriver, certains, ça dépend, c'est très individuel, mais certains vont arriver à lire, à écrire assez pour se débrouiller et gagner en autonomie. C'est sûr qu'ils vont pas nécessairement se rendre au cégep et à l'université, puis peut-être même pas leur secondaire 5, mais c'est ça la particularité de l'alphabétisation populaire, c'est qu'on va leur donner plus que juste de savoir lire et écrire, mais de la confiance en soi qu'ils avaient complètement perdue. Puis après, ben, d'être capable de se débrouiller, puis de d'avoir peut-être un emploi ou d'être capable de lire leur courrier ou...
Concrètement, Mme Saint-Germain, le manque de financement, ça se traduit comment dans les services que vous donnez en alphabétisation?
Ben, mes collègues l'ont bien dit, hein, nous aussi, on a un problème c'est à cause qu'il n'y a pas de permanence, bien, très peu de permanence. Nous, le problème, c'est la stabilité de l'équipe. Tout ça, c'est très important quand on travaille avec des gens démunis, que l'équipe soit stable, parce que c'est un processus là de long terme qu'on entreprend avec chacun d'eux. Donc, les stabilités d'équipe, d'avoir des salaires convenables, et puis c'est tout à fait ça. Moi, je suis pas gênée de le dire. Je me demande, je pense que je fais même pas 20 $ de l'heure là, pour quelques sous. Ça fait 12 ans que je suis dans le même organisme. Et puis, je pense d'avoir pas mal plafonné, puis je suis à l'aube de ma retraite dans 2-3 ans, puis ma situation, ce sera pas beaucoup améliorée. Ben, j'espère que ce sera amélioré après ce qui se passe en ce moment. D'autres choses aussi, on parle de ressources humaines, mais il y a aussi toutes les ressources matérielles. Donc là, on voit qu'il faudra changer notre parc informatique. Puis avec la COVID, on a vu à quel point c'est important que nos apprenants arrivent à se débrouiller. Donc, on devait leur donner des cours d'informatique. Et puis nous, une grande inquiétude aussi, c'est le logement. C'est qu'on est dans une bâtisse de la commission scolaire, mais il augmente aussi. Donc, le pied carré de ces bâtisses-là, à un moment donné, on n'aura même plus les moyens de les payer parce qu'il n'y a pas d'indexation non plus. On le sait, nos subventions se figent ça dans le temps. Donc, ça, c'est le loyer, le matériel aussi pédagogique, d'avoir du beau matériel. Nos apprenants méritent aussi d'avoir des beaux services puis d'avoir du beau matériel. Donc, puis il faut toujours grappiller à gauche, à droite, les fondations, les institutions.
Je comprends. Merci beaucoup d'avoir fait ce plaidoyer, Mme Saint-Germain. Bonne chance.
Vous avez aimé ce que vous avez entendu? Patrick Lagacé en accéléré est disponible sur Apple et Spotify. Abonnez-vous pour ne rien manquer.
C23, c'est l'extension naturelle de votre station préférée. Sous forme de balado à écouter en tout temps, où que vous soyez, C23, c'est du contenu créé pour vous. C23, c'est toute l'opinion, l'actualité, le divertissement et l'émotion de votre station préférée.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.